Amis du RH, bonjour. Le Barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain? Préparez vos AirPods, c'est parti!
Aujourd'hui, on va parler d'un sujet épineux pour les RH. On va parler de comment faire une équipe avec une somme d'individualité. Et une fois n'est pas coutume, on va se servir du sport pour parler de ce sujet et on va essayer de s'en inspirer. Et pour parler de ça, aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'être avec Maroussia Paré. Salut Maroussia, comment
Salut.
Ça va?
Salut, ça va, merci et toi?
Ça va bien. Alors, il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas. Très probablement beaucoup, peu, parce que dans mon environnement, il n'y a pas que des sportifs. Mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et pourquoi je suis super heureux de t'avoir aujourd'hui pour parler des individualités qui forment une équipe?
Ouais. Alors, je m'appelle Maroussia Paré, j'ai 27 ans. Je suis sportive de haut niveau en athlétisme depuis mes 15-16 ans, on va dire. J'ai porté les couleurs de l'équipe de France senior pour la première fois en 2015. Et depuis, j'ai tout fait pour conserver ce maillot et le porter le plus de fois possible jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio, de Tokyo, jusqu'à un titre de championne du monde du 4x200 m à Yokohama en 2019. Et à côté de ça, à côté de faire en sorte de courir vite un peu partout dans le monde, je suis aussi psychologue. Et justement, j'interviens dans les entreprises, dans les associations, les écoles, pour permettre à chacun et chacune de mobiliser les mêmes ressources que j'ai moi-même utilisées pour atteindre les plus belles distinctions de mon palmarès.
Trop cool. Mais je suis fan de sport. Tu sais même pas à quel point je suis fan de t'avoir aujourd'hui. Et en gros, c'est hyper inspirant. On en a discuté un petit peu et ça va être tout le sujet du jour. C'est hyper inspirant de voir ton parcours et de voir comment tu as pu progresser en fait dans tout ce domaine-là. Et surtout, on va parler justement du sujet qui est du fait tu as été championne du monde de relais 4x200 et du fait que c'est quand même un sujet qui est hyper particulier de faire en sorte d'avoir des personnes qui sont des individualités, qui travaillent pratiquement toute l'année pour elles et qui au final arrivent à un but commun à un instant T, qui est le fait de courir ensemble pour pouvoir justement récupérer cette médaille. Et en plus, de mémoire, dans ta course, il y a justement... dans la course dans laquelle vous avez été champion du monde, il y a justement les Jamaïcains qui se sont complètement plantés, alors que c'était des individualités qui étaient censées être plus fortes et qui, au final, n'ont pas réussi à arriver au bout. Et voilà, c'était un petit peu le sujet.
Ah ouais, absolument. J'invite vraiment tout le monde à regarder la course parce que même nous, quand on a vu la start list, on s'est dit « Ok, là, quand même, les Jamaïcaines, elles alignent une équipe avec, alors je ne sais plus combien de filles qui ont fait les Jeux, mais une triple médaillée olympique à ce moment-là. Enfin, c'est des nanas qui courent extrêmement vite. Et très honnêtement, sur le papier, il n'y a pas photo. Jamais on se dit la France avec des équipes comme ça à côté, des Américaines pareilles qui alignent une équipe très, très forte. Jamais on se dit la France va gagner. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on regarde la course, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de synergie en fait, entre les nanas à ce moment-là, entre les Jamaïcaines et les Américaines. Plus encore quand même les Jamaïcaines qui foirent un premier passage. Le 4x200, il faut savoir, c'est une discipline qui n'est pas olympique, mais c'est une discipline qui est particulière parce que en fait, à la fin d'un 200 mètres, on est fatigué et on ne peut pas transmettre le témoin de la même manière que sur un 4x100 où en fait, on arrive avec peut-être une déperdition de vitesse un peu légère, mais en tout cas, le différentiel de vitesse n'est pas aussi impressionnant que sur un 4x200. Donc, il faut vraiment faire attention. Et nous, les filles, en fait, à ce moment-là, c'est juste appliqué. On a fait ce qu'on avait à faire. On a pris les choses les unes après les autres et c'est passé. Et on n'a pas cherché à réinventer la roue. On a juste appliqué ce qu'on s'était dit à l'échauffement, ce que nous avait dit le coach. On a suivi des étapes et on a gagné comme ça, quoi. Et aussi simplement. Et il y a même, sur une autre vidéo, on nous voit avec les filles dans la chambre d'appel. En fait, c'est un peu comme derrière le rideau au théâtre quand les comédiens vont sortir. On est en train de danser, quoi. Alors qu'on voit les Japonaises, les Américaines qui sont hyper focus. Et nous, on est en train de se marrer, on danse. On est en train de se demander... quelle entrée on va faire, quel signe on va faire, enfin, un truc vraiment invraisemblable pour une finale de championnat du monde, quoi.
Trop cool, mais c'est vraiment tout le sujet, c'est-à-dire que vous êtes l'exemple type de la force du collectif par rapport aux individualités. Et c'est un peu, et c'est pour ça que je suis très heureux de t'avoir, parce que c'est quand même un gros sujet RH, c'est quand même un gros sujet d'entreprise, qui est qu'on a toujours tendance à recruter des personnes pour ce qu'elles sont, de manière individuelle, mais on a peu tendance en fait à penser globalement et à penser comment les personnes vont se compléter. Ça commence à venir un petit peu, ça rentre dans les mœurs, mais on a peu tendance à faire ça. Et d'ailleurs, il y a même des incidences qui sont plus profondes que simplement le fait de les compiler. Il y a des incidences qui sont environnementales. Tu vois, j'ai à ta place la semaine dernière, il y avait Guillaume Mathias qui parlait de neurosciences et donc le fait de recruter des personnes différentes pour pouvoir améliorer l'environnement qui fasse que, toi, ça doit te parler en plus en tant que psychologue, pour améliorer l'environnement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le côté complémentarité, on va dire physique, complémentarité dans les compétences, dans la technicité, mais il y a aussi complémentarité globale. Donc, je trouve ça hyper intéressant comme exemple et ça va être tout le sujet du jour. Et on va commencer du coup par une première question. Alors, la première question, ça va être pour toi, comment on fait pour recruter des individualités qui feront grandir l'équipe ? Parce que c'est un peu tout le sujet. Aujourd'hui, quand on est... alors, tu vas nous parler de ton point de vue du sport, mais aujourd'hui, quand on est en entreprise, quand on est RH, tout le sujet, c'est de dire comment je vais faire pour faire évoluer les équipes, comment je vais faire pour faire grandir l'entreprise. Mais in fine, on ne recrute pas une équipe au global, on recrute chaque individualité. Donc, pour toi, c'est quoi, on va dire, le secret pour recruter des individualités qui feront grandir l'équipe ?
Le secret, alors, en fait, je pense à plusieurs choses. Déjà, partir du besoin donc de l'organisation, en tout cas de l'équipe, et de savoir, OK, bon, on a des objectifs, etc. Évidemment, on va se demander qui est-ce qui va compléter, qui est-ce qui va faire en sorte que ces objectifs soient remplis du mieux possible. Bon, c'est vraiment le départ, se dire, OK, mais on va chercher quoi avec cette équipe ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? En tout cas, dans le sport, en général, c'est comme ça qu'on commence. On se dit, OK, il y a tel championnat et on veut être prêt pour ce championnat. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous propose comme athlète ? OK, on a cet athlète qui court très vite sur 50, 60, 70, OK. Mais moi, j'ai besoin d'une nana qui court plutôt vite sur 100 mètres, 120 mètres, 150 mètres à un poste spécifique. OK, mais dans le groupe, comment ça va fonctionner ? La différence d'âge, la différence de génération, les différences entre d'intérêts, est-ce qu'il y a des antécédents ou pas, qu'est-ce qu'elle apporte au groupe, qu'est-ce qu'elle a fait comme, qu'est-ce qu'elle a eu comme expérience. Et tout ça, en fait, ça va faire en sorte que, au-delà des performances, parce qu'il ne faut pas regarder que les performances, en fait, c'est ça le secret, je pense surtout. Ce n'est pas se dire, tiens, cette nana a fait couru 2 centièmes de plus que l'autre, on va prendre celle qui a couru 2 centièmes de plus que l'autre. On va se dire, OK, mais à côté de ça, quelles sont ses qualités ? Ces soft skills, en fait, liés à la communication, liés à l'organisation, ce qu'elle apporte au groupe. Est-ce qu'elle est plus du genre à énerver les filles et donc les booster un peu ce côté OK, ben, on va un peu se rentrer dedans. Ou alors, est-ce que ça va être plus le côté on va s'apaiser. Et en fait, dans notre équipe, on a différentes filles qui ont ce rôle-là. Et des fois, à performance égale ou peut-être même inférieure, le sélectionneur, il va avoir tendance à choisir une fille qui, tiens, dans ce championnat-là, dans ce championnat du monde-là, on va avoir besoin d'une fille qui va, OK, apaiser, parce qu'il va y avoir beaucoup de pression. Et donc, c'est comme ça qu'il va construire son équipe. Après, je pense aussi qu'on a besoin d'individualités qui soient très bons dans ce qu'ils font, mais qui soient aussi capables de partager et de faire monter les autres dans les compétences aussi qu'ils ont naturellement. Et pas des personnes qui vont uniquement regarder ce qu'elles font de mieux et le garder pour elles, en fait. Et ça, c'est vraiment important, cette cohésion-là, cette capacité à élever l'autre. Et nous, dans le sport d'équipe, on en a évidemment besoin, parce que notre spécificité à nous en athlée, c'est que, ben, en fait, on est concurrentes 80%, 90% de l'année. Et juste sur un championnat, une épreuve qui dure 40 secondes, mais en fait, on est obligé de se battre l'une pour l'autre. Et ça passe que ça peut fonctionner que si on est capable de se dire, OK, mais en quoi je peux aider ma collègue ? Et c'est ces qualités humaines-là, en fait, qu'il faut commencer à rechercher, et ces complémentarités-là de différence de caractère ou d'antécédents de carrière, quoi.
Mais du coup, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a le côté performance, donc ça, on est complètement d'accord, le côté performance, il est important. Effectivement, si tu as une personne qui court le 100 mètres ou le 200 mètres en 30 secondes, ça va être compliqué de l'apprendre, on est bien d'accord. Mais côté performance, le côté environnemental, donc là, on vient un peu sur l'aspect neurosciences, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas pouvoir dégager comme, comme atmosphère en tant que personne? Est-ce que tu vas rassurer? Est-ce que tu vas, comme tu le dis, énerver? De temps en temps, c'est même intéressant d'énerver, comme tu le dis. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais au final, vous êtes, tu l'as dit à juste titre, vous êtes adversaires toute l'année. Vous courez pratiquement jamais ensemble. Donc, comment on peut faire, justement, pour pouvoir bien recruter? Parce que, tu vois, c'est aussi un peu tout le problème, justement, des RH. C'est-à-dire que là, alors, bien évidemment, quand tu as une expérience, quand tu sais que les filles ont bien couru ensemble et tout ça allait, mais là, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que tu ne le sais pas à l'avance. Donc, comment tu peux réussir à... Alors, tu ne peux pas le dire dans une boule de cristal, mais comment
bien
tu peux...
Moi, ce qui me vient spontanément quand tu me poses cette question, c'est à quel point la personne, elle est capable d'incarner un projet. À quel point elle est capable de se mettre au service, en fait, du projet. Alors, je ne sais pas quelles questions mises en situation peuvent être créées à partir de ça, mais je pense vraiment que c'est... OK, à quel point est-ce que la personne elle a envie de se donner pour ce projet qui peut-être... Tout le monde a des motivations différentes en entreprise. Voilà, tout le monde n'incarne pas son projet professionnel pour les mêmes raisons. Mais ça, à la limite, c'est pas grave. Mais c'est se demander, OK, mais est-ce que la personne, elle est prête à s'impliquer? Qu'est-ce qu'elle est prête à faire, en fait, pour que ce projet aille au bout? Et je pense que c'est ça qui trotte plus souvent dans la tête des sélectionneurs et des managers de l'équipe de France plutôt que la stricte performance.
Et du coup, est-ce que tu penses que là, tu vois, quand on est en train de parler, c'est ultra intéressant parce que ça me fait réfléchir à d'autres choses. Est-ce que tu penses que là, nous, on s'inspirerait du sport pour pouvoir bien recruter, pour pouvoir faire attention au côté performance, mais aussi environnemental et ainsi de suite? Mais en RH, on a tendance, enfin dans les entreprises, tu sais, on a tendance à recruter en fonction de l'ADN, de la culture fit et tout ça. Donc ça, c'est ce que tu es en train de dire. Mais est-ce qu'au final... Et ça, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'au final, les équipes de France, les sélectionneurs, réussissent à définir leur ADN et leur culture fit avant de recruter, tu vois? Ou est-ce qu'ils le font justement à la sensation, au feeling, et ainsi de suite, chose que les RH ont tendance à honnir un petit peu parce que le feeling n'est pas forcément bon.
Oui, je pense qu'il y a de ça aussi. Mais par contre, il y a plusieurs décideurs aussi à ce moment-là. Et je pense que ça aide. Il y a plusieurs sons de cloche qui vont permettre après d'orienter les choix. Et vraiment, je pense que ça aide. Et ce sont aussi des postes qui sont très complémentaires parce que, par exemple, si on prend l'exemple aujourd'hui de notre collectif, on est accompagné par des préparateurs mentaux, des psychologues qui aussi évaluent les capacités des filles à faire ou à ne pas faire, qui évaluent plutôt des profils à un instant T de la saison. Donc, il y a aussi ce côté feeling-là, mais aussi l'observation du coach et son œil de se dire « Ok, mais là, à ce moment-là, j'ai remarqué que tu avais réagi comme ça, etc. Et comment tu peux me l'expliquer? Qu'est-ce que tu en dis ?» Il y a énormément de communication, et justement, pour aller chercher, pour aller sonder. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire aussi quand on recrute quelqu'un. C'est « Ok, mais quel recul il a sur lui, sur sa performance et sur un... En tout cas, sur ses capacités, sur ses qualités, qu'est-ce qu'il est capable de produire, quoi, et comment il explique.
Donc, on ne recrute pas forcément les meilleurs.
Non.
Ou tout du moins, pas les plus techniques, on va
Absolument.
Dire.
Absolument.
On recrute les plus complémentaires sur un aspect qui est plus global. Mais alors, la question qui suit, c'est, une fois que tu as recruté ces personnes-là, c'est bien, mais comment tu fais pour les animer? Comment tu fais pour les faire performer? Parce que c'est aussi toute la question qu'on a, tu vois. C'est-à-dire qu'on recrute, on imagine que les gens sont bien, mais... C'est un vrai sujet managérial, hein, le fait d'animer une équipe. Et c'est assez intéressant en plus de pouvoir avoir ton sentiment et ton parallèle, parce que déjà, c'est compliqué dans une entreprise d'animer une équipe parce que les personnes n'ont pas forcément toujours les mêmes attentes. Alors, si on a bien fait le recrutement, logiquement, on fait en sorte, logiquement, que les attentes, même si elles ne sont pas les mêmes, elles soient complémentaires. Exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire une personne qui énerve un petit peu, bah elle va se sentir bien parce que justement, elle va être elle-même. Et le fait d'énerver les autres, ça va leur servir parce que ça va les faire justement se dépasser, ainsi de suite. Tu vois, donc ça, c'est intéressant. Mais tout ça, il faut vraiment l'animer et le mettre en branle. Et je pense que c'est encore plus compliqué chez toi parce que en plus, ce que tu disais, vous êtes adversaire 90% du temps. Donc comment tu fais, quoi?
Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ça ne s'est pas toujours bien passé quand même, hein, dans les collectifs. Hein. Donc, pour ne pas se dire que quand on arrive, c'est les bisounours, tout le monde est très content de se retrouver. Moi, je n'ai pas vécu de période où ça s'est mal passé. Évidemment qu'il y a des affinités dans les groupes. Hein. On n'est pas les meilleures copines du monde qui allons partir en vacances ensemble. Ce n'est pas vrai. Mais en tous les cas, il y a quand même une atmosphère, une ambiance à créer pour qu'on puisse travailler correctement et qu'il n'y ait pas de tension, quoi. Ou en tout cas, s'il y a ce côté, comment dire, concurrence, c'est de la concurrence saine qui permet à chacune de se dépasser. Écoute, on le crée. On le crée, cette atmosphère, on l'a créée avec des team building, avec beaucoup de construction collective en fait, autour du projet, où littéralement, on s'assoit et on discute de chaque valeur, de ce que ça implique comme comportement derrière, de ce qu'on veut voir ou ne pas voir aussi dans le collectif. On n'est pas tout le temps d'accord. Des fois, c'est juste de la sémantique, mais en tout cas, pour la plupart, chacune arrive à s'exprimer. Et puis aussi, ce qui est intéressant, je pense, d'un point de vue après purement exprimer ses qualités, c'est de placer les personnes vraiment en fonction de leurs qualités. Parce que c'est beaucoup plus dur que de mettre quelqu'un à un poste, nous aussi ça s'appelle un poste dans le 4x100, en lui disant « écoute, je vais te mettre là, mais c'est vraiment une tannée pour la personne, elle n'y arrive pas. Moi, je sais qu'il y a j'ai un poste spécifique, je le fais naturellement, je le fais depuis que j'ai 15 ans, et je répète, j'essaie de faire en sorte que ce soit mieux à chaque fois, mais en tous les cas, je n'ai pas de difficulté quand on me dit « ok, je sais que là, pour moi, quand je suis dans ce poste, c'est naturel. » C'est exactement pareil en entreprise. Mettre des personnes dans des postes où leurs qualités naturelles vont s'exprimer, et donc il y aura beaucoup plus de spontanéité, beaucoup plus de créativité et de productivité parce qu'on va être plus naturellement disposé à dire « ok, j'ai ça à faire » et ça va être une symphonie en fait, ça va être beaucoup plus simple. Donc ça, c'est vraiment aussi le rôle des recruteurs, etc., des personnes en charge de placer les individualités dans les postes qui leur correspondent, de dire « ok, mais au vu de ses qualités, effectivement, il vaut mieux privilégier un poste comme ça ou avec des missions plutôt comme ça, parce que, ben voilà, au final, ça s'emboîtera mieux déjà avec elle-même, mais aussi avec les autres.
Tu parles de team building, de choses comme ça, ce qui est, je pense, important. Donc, c'est bien, parce qu'au final, on s'inspire du sport, le sport s'inspire de l'entreprise, c'est bien. Et je vais te poser une question, c'est est-ce que quand il y a vraiment des... Alors, soit quand il y a des choses qui ne vont pas, soit est-ce que c'est vraiment dans la droite ligne du management et des sélectionneurs? Est-ce que l'objectif final est vraiment quelque chose qui vous rassemble, même quand il y a des choses qui ne vont pas ensemble?
Oui, je pense que l'objectif final, quand même, ça nous rassemble. Il faut quand même faire le point sur est-ce que tout le monde a le même objectif final? Okay. Vraiment, c'est pour ça qu'en fait, à la base, on part de ça et qu'au final, l'objectif ultime, on y pense sans y penser. C'est-à-dire qu'on se focalise vraiment en sport et c'est même plus rassurant et plus vivable sur qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, c'est quoi la prochaine étape. Parce que sinon, on va manquer le coche, on n'y arrivera pas. Donc, ce qui nous rassemble, effectivement, je pense, c'est même encore plus les étapes intermédiaires à valider que l'objectif final qui peut différer, et à juste titre, en fonction d'une personne ou d'une autre. Alors, il faut quand même qu'on aille dans le même sens. Hein. S'il y a une fille qui me dit « Non, mais moi, mon objectif, c'est juste de, je ne sais pas, porter le maillot de l'équipe de France », je vais dire « Bon, ben, c'est bien, c'est sympa, on est d'accord. Mais tu ne veux pas faire un peu plus quand même un record ou une finale ?» Donc, ça dépend après où la personne elle va placer son curseur, qui peut-être la rassure de se dire « Bon, ben moi, juste ça me rassure et voilà. » En tous les cas, on va quand même dans la même direction. Mais ce qui nous permet d'être ensemble, c'est vraiment de se dire « Ok, demain, qu'est-ce qu'on doit maîtriser et qu'est-ce qu'on doit valider ?»
Parce que du coup, ces différentes étapes te permettent au final de tirer tout le monde vers un même objectif. Exactement. Final, petit à petit, sans forcément avoir une projection qui soit du coup trop longue et qui soit un peu compliquée pour certains.
Exactement.
C'est assez intéressant parce que j'ai fait une interview avec quelqu'un qui est un très vieux pote à moi, qui s'appelle Olivier Missou, qui est un ancien rugbyman pro et qui accompagne justement les entreprises sur exactement ce que tu viens de nous dire, tu vois, sur ce côté. On segmente énormément les objectifs en des tout petits objectifs pour avoir non seulement une vue qui est plus proche, donc qui soit beaucoup plus rassemblante pour les personnes, mais en plus qui soit plus simple, entre guillemets, à atteindre, donc avoir tout un tas de petites réussites qui permettent d'avancer. Et ce que tu dis, c'est réel, c'est-à-dire qu'au final... nous, on le voyait, lui il l'a présenté plus d'un point de vue personnel, tu vois, le fait de, de faire accompagner les personnes d'un point de vue personnel et donc qu'elles aient plein de petites réussites. Mais au final, ce que tu dis, et c'est hyper intéressant, c'est le fait que d'un point de vue collectif, avoir toutes ces petites réussites, ça permet aussi potentiellement de souder parce qu'on se dit ensemble, boum, on est arrivé à ça, boum, on est arrivé à ça. Donc on va là, on va là, on va là.
Complètement. Et je me rappellerai, je pense toute ma vie, on était en Martinique en 2018, il me semble, à l'hiver 2019. À l'hiver 2019, donc un peu avant les fameux championnats du monde de Yokohama, championnat du monde de relais. Et on a été invité par l'armée à aller dans la mangrove, etc., à construire un brancard avec nos treillis et tout. Enfin, c'est du n'importe quoi. Ça nous a vraiment soudés. On a vraiment un souvenir fort ensemble. Et souvent, on en reparle. Et on se dit, mais en fait, on a réussi à faire ça toutes ensemble. Et c'est vraiment un souvenir qui est fort parce que c'était une situation qui était déconcertante. Enfin, on n'a pas tous les jours l'habitude d'être dans la mangrove en Martinique avec de la boue jusqu'au cou. Et en fait, on a réussi. Ça fait le parallèle, en fait, à se dépasser toutes ensemble et à se dire que c'est les mêmes compétences qu'il faut mobiliser. Et le même lien qu'on doit avoir quand on est sur la piste, quoi.
On parle de réussite, c'est bien, ça fait avancer. Mais maintenant, je veux te poser une nouvelle question, c'est comment tu fais face à l'échec, tu vois ? C'est quelque chose qui est aussi très compliqué. Alors, dans le sport, je pense que c'est encore plus compliqué. Et c'est pour ça que ça va être hyper intéressant de t'avoir. Parce que finalement, dans le sport, on a, je pense, plus d'échecs, sauf si on s'appelle Michael Phelps. Mais sinon, on a plus d'échecs et on a plus d'échecs que de réussites. Donc, c'est assez difficile. Et on sait qu'en entreprise, l'échec peut être vraiment déconcertant. Alors, en entreprise, il coûte de l'argent quand tu as du turnover.
Absolument.
Et tout. Mais ça peut être déconcertant parce que quand tu as une personne qui quitte l'entreprise, ça peut déstabiliser une équipe, ça peut être vraiment difficile. Et comment vous le vivez ? Comment vous réussissez à avancer ? Parce qu'encore une fois, chez vous, ça fait beaucoup plus partie de votre quotidien que du quotidien d'une entreprise.
Carrément. Je pense que l'échec, c'est... Alors, il y a échec et échec. On va dire, il y a petit challenge, manquer à l'entraînement et faux départ au championnat de France ou aux Jeux Olympiques. Là, évidemment, c'est... Et pour avoir connu des personnes à qui c'est arrivé, des amis proches, c'est vraiment très compliqué à gérer. Mais c'est normal parce que investissement physique et émotionnel sur un projet sur le long terme, et nous, en fait, on n'a pas de deuxième chance, quoi. C'est-à-dire qu'on a une cellule qui dit que si notre temps de réaction est en dessous, donc si ça affiche moins de 0,100 en temps de réaction, en fait, on part. Et la négociation, peut-être qu'ils vont nous faire courir, mais en fait, ça ne comptera pas et on rentrera chez nous. Et si on n'a pas la chance de faire un relais après, notre championnat est terminé. Donc, l'échec, il nous suit toute la journée, tout le temps. Et même, j'en parlais avec un entraîneur de l'équipe de France qui disait, franchement, si on fait le ratio entre les choses heureuses et malheureuses, il y a plus de choses malheureuses combinées. Mais les choses heureuses rattrapent tellement qu'au final, presque on oublie le truc, quoi. Je pense que c'est adaptatif aussi parce que sinon, on s'en sort pas. Mais effectivement, en fait, on est tout le temps en train d'expérimenter ce genre de situation. Je pense que la première chose à faire, et là où j'ai beaucoup appris aussi, parce que sinon c'était plus vivable, effectivement, c'est d'accepter les émotions qui arrivent. Et pas de se dire, j'ai échoué, ouais, mais non, c'est pas grave, je m'en fiche, je recommence, on y va, quoi. Non, il faut accepter la tristesse, la colère, la honte, la déception, la rage, tout ça. Il faut vraiment l'accepter et se dire, mais en fait, ouais, je suis révoltée par la situation parce que c'est pas normal, c'est injuste, je comprends pas. Et en fait, peut-être que l'échec, il faut aussi, avant de chercher à le gérer une fois qu'il est arrivé, changer son rapport à lui avant qu'il arrive et se dire, ok, mais comment je vois un échec ? Vraiment, est-ce que pour moi, l'objectif sera complètement, je serai passé complètement à côté de mon objectif si je ne l'ai pas rempli à 100% tel que je le dis, ou il y a peut-être des choses qui peuvent rester malgré le fait que je sois passé un peu à côté du truc, quoi. Se jauger et puis se dire, ok, bon, à partir de là, qu'est-ce que j'ai réussi à faire ? Qu'est-ce que j'ai réussi à préserver ? Et à partir de là, en fait, on essaie de mettre tout simplement de l'objectivité. Parce que c'est ça, gérer un échec, c'est d'abord rester objectif. En tout cas, après la partie émotionnelle, se dire, ok, un peu comme quand j'aime bien cette image-là du cyclone, quand on est dans un cyclone, tout autour est détruit. Mais quand on prend les images satellites, on voit que les bras du cyclone n'ont pas encore tout touché. On se dit, ah ben tiens, il y a des choses qui sont préservées, comment je peux faire? Et puis, quels enseignements je peux tirer du fait que cette fois-ci, ce n'est pas passé? Est-ce que j'avais besoin de soutien social? Est-ce que j'avais besoin de plus d'informations? Est-ce que j'avais besoin de parler à des gens qui ont déjà vécu ça? Je pense que c'est pareil, en fait, en entreprise, se dire, ok, mais alors, qui dit échec collectif dit gestion de l'échec collectif, pas, voilà. Après, s'il y a des personnes qui doivent se remettre en question individuellement, le feront. Mais en tout cas, le débriefing, même quand c'est une nana qui fait tomber le témoin, on le fait en groupe, en fait. Donc, c'est pareil dans une organisation où il y a plusieurs personnes sur un même projet. C'est OK, mais de quoi tu avais besoin? Comment j'aurais pu mieux t'aider à ce moment-là, quoi, par exemple? Comment on aurait pu prévenir le truc? Qu'est-ce qu'on aurait pu ajuster?
Est-ce qu'il ne faudrait pas justement, préparer, est-ce que vous avez ça? Préparer, comme tu le disais, tu vois, les équipes à l'échec. C'est-à-dire leur dire, bon, voilà, vous allez avoir des échecs. Ça va arriver, forcément. Moi, je le faisais beaucoup quand j'étais au rugby, parce que j'ai entraîné pendant longtemps au rugby, à petit niveau, hein, mais j'ai entraîné pendant longtemps au rugby. Et je disais toujours aux gars, mais vous inquiétez pas, des points, vous allez en prendre, des essais, vous allez en prendre, des erreurs, vous allez en faire. Par contre, il faut savoir que ça va arriver pour pouvoir justement rebondir, s'expliquer et pouvoir avancer. Je pense que c'est un peu plus simple, on va dire, dans le sport, parce qu'on sait que ça va arriver. Et puis, comme tu le disais, il y a peut-être plus d'échecs que de réussites. Dans l'entreprise, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, c'est une question, hein, là, pour le coup, complètement, voilà. Et est-ce que pour toi, il y aura un truc à faire pour préparer justement les équipes à l'échec?
Bon, déjà, je pense en parler. Et puis, peut-être aussi, encore une fois, si je fais le parallèle, nous, sur... pour ceux qui ne sont pas initiés au relais 4300 et au relais de secours, on a une marque sur laquelle on doit partir au moment où notre coéquipière passe. Alors, effectivement, cette marque, c'est un scotch au sol. Bon, voilà, on la voit. Mais quand on travaille sur une marge d'erreur. Et je pense que c'est beaucoup plus agréable de se dire, je peux me tromper, j'ai une marge d'erreur, et ça va marcher, en fait, quoi qu'il en soit. Et c'est là où on se dit, mais en fait, l'échec, c'est pas la fin de tout. On peut rattraper. Alors, évidemment, dans une certaine mesure, des fois, c'est pas le monde des bisounours, mais il y a des ajustements qu'on peut prévoir. Et nous, en fait, on est obligé de le faire parce qu'effectivement, on n'est pas des machines. Et ma marque, elle est à, on va dire, 7,50 m voilà, de moi. Si je pars à 7,80 m, ce n'est pas grave, ça va passer quand même. Et ça nous permet de dédramatiser et d'être moins tendu à l'idée de faire un truc. Parce que justement, quand on est focalisé sur un chiffre, un résultat, un chiffre d'affaires, etc., en fait, on est tétanisé au moins de trucs en se disant « punaise, si je bouge un orteil, qu'est-ce qui va se passer ?» quoi. Non, restons quand même assez souples sur les décisions et après, ça nous permettra peut-être d'avoir des ajustements en conséquence.
C'est intéressant, ça veut dire en gros, plus que préparer à l'échec, certes, mais adapter la méthode d'objectif pour justement qu'il y ait un espace qui soit acceptable, un delta qui soit acceptable et donc du coup, désensibiliser le côté figé pour pouvoir faire en sorte que les personnes soient plus productives, moins stressées. Absolument. Et donc, normalement, puissent plus arriver à leurs objectifs. C'est assez intéressant comme mécanique dont que tu parles, parce qu'au final, l'objectif reste le même.
C'est ça.
Mais comme tu le délies un petit peu et tu le dilues un petit peu, tu l'élargis un petit peu, bah de fait, tu permets une flexibilité mentale à tes équipes qui va faire que potentiellement, elles arriveront plus simplement à l'objectif final.
Absolument.
Intéressant.
Et puis, il y a échec et échec aussi, je pense à ça. Beaucoup de coachs vont dire, je préfère que tu aies échoué en essayant, que tu aies échoué en ne faisant rien et en ayant peur, en fait. Il faut se lancer, il faut oser, il faut y aller. Et on a souvent ce discours en sport de... typiquement, moi, au championnat de France, là... ces derniers championnats de France où je fais vice-championne sur le 200 en salle, je suis championne de France pendant 190 mètres, 195, mais j'ai essayé et je me suis dit, Marbussia, c'est pas grave si tu craques, mais de suite, il faut que tu sois devant. Et c'est le discours que m'a tenu mon coach, en fait. Il m'a dit, mais écoute, si tu fais deuxième, c'est pas grave, ok? Mais lance-toi pour être première dès le départ et on verra après. Et en tous les cas, ce ne sera pas un échec.
On vise les étoiles, tu as tiré
un peu sur la ouais.
Trop bien. Avant-dernière question, mais hyper importante. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des grosses, grosses problématiques dans le monde de l'emploi, dans le monde économique, sur le côté comment dire, recrutement et emploi des seniors, des personnes un peu plus âgées, un peu plus d'expérience. J'avais fait un post la dernière fois qui disait, je crois qu'il y a à peu près 60% des plus de 55 ans qui sont dans l'emploi. C'est ouf, parce que ça veut dire qu'il y a 40% qui n'y sont pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont au chômage,
ouais, ouais.
Mais ça veut dire qu'ils sont soit à la retraite, soit aussi, soit ça, machin. Donc, c'est énorme, hein. Surtout quand on veut élargir le temps de départ à la retraite, c'est assez énorme. Alors que pourtant, on sait que c'est un modèle français qui est très mauvais, parce qu'on ne s'inspire pas des autres modèles internationaux. On sait qu'il y a plein d'autres pays dans lesquels on recrute des anciens, des seniors, parce qu'ils vont apporter de l'expérience aux jeunes.
Absolument.
Parce qu'ils vont pouvoir les former, parce qu'ils vont pouvoir faire du tutorat, du mentorat, chose que moi, je trouve primordial. Parce
Absolument.
Que quand on est jeune, on est là pour se planter. Mais si jamais, justement, tu as des gens avec plus d'expérience qui te disent un petit peu où aller, tu te planteras, mais tu te planteras peut-être un peu moins ou différemment, ou ainsi de suite. Toi, j'ai l'impression, de ce qu'on avait parlé, c'est un peu le cas aussi dans le relais. C'est ce que tu disais aussi en préalable. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont un peu plus anciennes. Et d'ailleurs, je crois que tu fais partie des
oui.
plus anciennes à 27 ans du relais. Mais en même temps, tu as déjà deux Olympiades derrière toi. Donc forcément. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment primordial? Est-ce que ça sert vraiment au relais ou est-ce que la fougue de la jeunesse l'emportera tout le temps? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que tu vas forcément prêcher ta paroisse aussi, parce que voilà. Mais foncièrement, qu'est-ce que tu en penses?
Je pense qu'il faut un mélange des deux. Il faut un mélange des deux parce que des fois, on se fait rouler dessus par les échéances. Là, les championnats du monde de relais qui se tiennent encore cette année aux Bahamas, c'est des ambiances. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai fait ça. Je me suis dit, mais comment c'est possible? De toute façon, la Caraïbe, c'est le temple du sprint, enfin, en tout cas de l'athlée. Les tribunes sont bondées et on ne s'entend pas. Et pour avoir fait plein de stades dans le monde entier, peut-être aux États-Unis aussi, évidemment, enfin voilà, mais c'est des endroits où tu ne peux pas lever la tête à ce moment-là et dire, waouh, celle-là, c'est fini. Et on a besoin, évidemment, de personnes qui sont passées par là et qui vont aiguiller. Je pense que c'est nécessaire. Pareil, le village olympique, si on a envie de faire n'importe quoi dans le village olympique, mais là, c'est open bar, hein, on y va. Alors là, si on veut se perdre dans le village sortir de sa compétition, c'est possible. Donc, on a besoin de personnes qui mettent un cadre et qui rassurent aussi, des fois, qui, justement, par rapport aux choses un peu manquées qui peut-être sont des personnes qui sont déjà passées par là vont venir rassurer, épauler et discuter. En fait, ça fait toujours du bien d'avoir une personne qui va te dire écoute, j'imagine ce que tu ressens, voire je comprends parce que je l'ai déjà vécu et on s'en sort et voici comment tu peux faire, quoi. C'est nécessaire.
Pour toi, ça serait, est-ce que c'est possible, alors c'est toujours, tout est toujours possible, mais pour toi, est-ce que vraiment tu penses qu'un relais jeune, inexpérimenté peut gagner?
Inexpérimenté, qui n'a aucun grand championnat, tout ça. En tout cas, dans les meilleures équipes, il y a toujours un ancien. Donc, honnêtement, je pense que la marche est encore plus haute quand c'est vraiment une jeune équipe.
Tu vois, ça répond complètement à ma question, parce qu'au final, c'est ça. Aujourd'hui, il y a ce jeunisme qui est là. On doit recruter des jeunes parce qu'ils sont innovants, parce que si et ça. Oui, ok, d'accord, c'est vrai. Et peut-être que les jeunes vont arriver avec plus de fougue, peut-être que les jeunes vont arriver avec courir plus vite, comme tu le disais. Mais in fine, tu as besoin justement de cette expérience pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir avancer, pour pouvoir appréhender certaines choses, pour pouvoir pas se planter à un endroit et tout. Là, je pense que c'est même plus important chez vous qu'en entreprise, parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que s'il y a erreur, c'est terminé, basta, c'est fini, on revient dans un an, on revient dans deux ans, on revient dans quatre ans.
Ouais.
Tu vois, donc c'est encore pire. En entreprise, il y a un petit peu ce système d'erreur, mais je ne comprends pas qu'en France, on ne comprenne pas que le côté expérience et senior soit intéressant et permette d'améliorer les jeunes, parce que c'est ça en fait le truc. C'est pas de se dire je vais recruter un senior à la place d'eux. Non, tu recrutes pas un senior à la place d'eux. Tu fais une globalité, et c'est exactement ce qui se passe chez vous. Tu fais une équipe, tu fais une osmose entre la fougue de la jeunesse, l'expérience des plus seniors, et c'est ça, cet équilibre là qui est intéressant.
Et puis je pense aussi par rapport au turnover ou à l'absentéisme, je pense que qu'est-ce qui fait aussi un des socles d'une bonne vie en entreprise pour un collaborateur, c'est qu'il soit rassuré sur son sentiment de compétence et qu'il fasse des choses où il se sent compétent et où ses qualités s'expriment, qu'il y a un bon soutien social et qu'il ait de l'autonomie aussi, et pas qu'on soit tout le temps derrière lui en disant « fais ça, fais ça, fais ça, fais ça ». Et je pense que quand on a des personnes un peu, comment dire, identifiées comme ressources, elles peuvent apporter tout ça, quoi. Elles peuvent le créer. Et c'est nécessaire, en fait, vraiment.
Moi, je suis persuadé de la force du tutorat et du mentorat en entreprise. Pour moi, c'est primordial. C'est ce qui va faire avancer la société. Les Américains, alors, je ne suis pas spécialement fait des Américains, mais ils le font depuis très longtemps et ça marche extrêmement bien en entreprise. Mais clairement, et je pense que le sport, pour ça, est un très bon exemple. Toi, tu le montres avec le relais parce que c'est vraiment primordial de le faire. Moi, je prends souvent, quand j'en parle, l'exemple du hand, parce que le hand français, c'est l'exemple type de ça. C'est-à-dire que c'est le mélange parfait entre la jeunesse et l'expérience, et c'est ce qui leur a permis d'être au top depuis maintenant, ça fait 20 ans pratiquement maintenant qu'ils sont au top. Vraiment, cette expérience-là, pour moi, c'est primordial, quoi. Et on devrait clairement s'en inspirer, quoi.
Absolument.
De la même manière qu'on devrait s'inspirer aussi de la diversité, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la diversité, c'est ce qui fait la force aussi, tu vois. C'est-à-dire que bon, ce n'est pas le sujet du jour, donc on ne va pas faire trop de digressions, mais pour moi, et je pense que pour toi aussi, ça doit être pareil, la différence de point de vue fait grandir justement les équipes parce que tu peux arriver en te posant des questions que les autres ne se poseraient pas et donc du coup avancer sur certains points sur lesquels tu n'aurais pas avancé si tu n'avais pas une certaine diversité. Diversité de culture et tout, on s'en fout, mais pour moi, la diversité, c'est ce qui amène la diversité de point de vue, quoi.
Complètement, complètement. Et puis, ça permet aussi de construire au mieux son projet, du coup. Ça permet de mettre un peu des, en lumière des choses peut-être, voilà, qu'on n'aurait pas pensé, mais qui finalement s'avère être nécessaire et ça nous fera peut-être même partir avec un peu plus d'avance que si on avait été tout seul ou les mêmes personnes, entre guillemets, dans leur coin.
Trop cool. Merci beaucoup. On a parlé à peu près de tous les sujets. Je vais quand même te poser une dernière question. Maintenant, tes objectifs sportifs et futurs, parce que tu as dit que c'était la dernière année.
C'est ça, exactement. Ouais, la retraite, j'aurai 28 ans cet été, c'est cool. bien préparé cette qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais avant, je me focalise vraiment sur ce qu'on disait, les étapes intermédiaires, quoi. Vraiment, vraiment. Et je pense que c'est ça qui me motive. On a bien balisé les étapes et le chemin avec mon coach. Et on prend les choses les unes après les autres. Et c'est vraiment ça qui me motive au quotidien. Alors, je ne sais pas si je serai aux Jeux Olympiques aujourd'hui de Paris. Mais en tous les cas, pour le moment, tout se passe bien. Tout est en ordre. Donc, j'ai plus qu'à courir vite et puis on verra où ça me mène.
On poussera derrière toi. Et d'un, d'un point de vue professionnel, alors ?
Et d'un point de vue pro, ça va s'accélérer après les Jeux, évidemment, quand je serai en carrière, en retraite. Attention, lapsus. Non, c'est fini après. Quand je serai uniquement en carrière pro. Vraiment envie de partager à fond ce parallèle entre le monde du sport et de l'entreprise, quoi, parce que à chaque fois que je le fais, j'ai des super retours et je me dis, mais en fait, voilà, quoi, la clé, elle est là. Encore une fois, c'est de créer cette diversité et cette synergie, en fait, entre deux milieux qui ne sont vraiment pas du tout différents, quoi. Au contraire.
J'invite du coup tous les RH, tous les chefs d'entreprise, tous ceux qui t'écoutent aujourd'hui à te contacter, à se mettre en relation avec toi. Je mettrai tous les liens en commentaire pour pouvoir justement te rencontrer parce que tu interviens dans les entreprises, tu interviens en tant que conférencière et justement, tu partages cette expérience, tu partages tout ce vécu et tout ton expérience un peu extraordinaire parce qu'au final, il y a peu de personnes qui vivent ce que tu vis pour pouvoir justement le mettre en perspective par rapport aux problématiques d'entreprise. Donc, on va faire ça. Merci beaucoup, Maroussia. C'était
merci
trop cool.
Merci à toi.
Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un bon commentaire et à nous mettre une bonne note sur l'ensemble des plateformes sur lesquelles vous pouvez l'écouter. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était Le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka Le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.